dans 1 roi 13, parlant du prophète avec Jéroboam. Donc 1 roi 13. 1 roi 13. Pour replacer l'histoire dans le contexte ici, si vous lisez 1 roi 12, Jéroboam a fait pire que son père, puisque son père avait apostasié, mais Jéroboam veut faire encore pire que son père. Au lieu comprendre les leçons et les erreurs que son père a fait, lorsque Jéroboam est né, le roi Jéroboam, il a fait pire que son père, à un tel point qu'on nous dit même dans la parole, quelques versets plus tôt, que il a, dans le verset 31, on nous dit qu'il fit une maison des hauts lieux et établit des sacrificateurs d'entre toutes les classes du peuple, lesquels n'étaient même pas des fils de Lévi. Parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, les seules personnes qui pouvaient officier dans le sanctuaire étaient seulement ceux de la tribu des Lévites. Mais Jéroboam va transgresser cette règle-là en prenant des gens du peuple, sans prendre simplement des gens des Lévites. Un peu comme aujourd'hui, ce que nous faisons, nous mettons par exemple des femmes pasteurs. Pourtant, Dieu n'a jamais, le sacerdoce n'a été jamais à aucun moment donné aux femmes en général. Les femmes peuvent enseigner, oui, mais le rôle sacerdotal n'a jamais été donné aux femmes. Par exemple, il y a eu 12 apôtres, mes frères et sœurs, et dans les 12, c'était seulement des hommes. Bref. Mais Jéroboam va faire ça. Et il va même offrir des sacrifices dans cet autel-là. Et ça va être comme un feu étranger. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans 1 roi 13, va envoyer un prophète pour pouvoir donner la possibilité à Jéroboam de se repentir. Parce que dans la Bible, Dieu envoie toujours des messagers avant de faire éclater sa justice. On va lire ensemble 1 roi 13. On va lire ensemble les grandes lignes pour voir ensemble quelles leçons nous pouvons tirer de 1 roi 13. On va lire le verset 1. Et voici un homme de Dieu vient de Juda par la parole de l'Éternel à Bethel, et Jéroboam se tenait près de l'autel pour faire fumer de l'encens. Donc on voit que Jéroboam ici, qui est un roi, veut officier dans le sanctuaire. Pourtant, il n'y avait que les sacrificateurs et le souverain sacrificateur qui pouvaient officier dans le sanctuaire. Mais Jéroboam ici désobéit. Mais Dieu ici envoie un homme de Dieu. Ce qui est intéressant déjà ici, c'est que Dieu ne donne pas le prénom de cet homme-là. Par contre, on nous décrit quel type d'homme c'est. On nous dit que c'est un homme de Dieu. Donc pour rendre ça moderne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui marchait dans les voies de Dieu, quelqu'un qu'on pouvait voir dans sa vie qui était intègre, qui essayait vraiment de faire la volonté de Dieu dans sa vie. Et que les gens pouvaient voir de loin et dire « Ah, cet homme-là marche vraiment avec Dieu ». Et c'est ce type d'homme-là qui, poussé par la parole de Dieu, va voir le roi Jéroboam. Et on nous dit le verset 2, « Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi dit l'Éternel, voici un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Josias, et il offrira sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui feront fumer, de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et il donna en ce même jour un signe, disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » D'une manière très simple ici, Dieu parle à travers cet homme de Dieu. Et il prophétise en disant que un fils naîtra à la maison de David, qui s'appellera Josias, et il offrira sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui font fumer l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements. Et on nous dit que le signe qui annonce cette naissance-là, c'est que l'autel va se fendre, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Et quand le roi va entendre ça, le roi, à cause de cette prophétie, va dire, « Oh, saisissez-le, le verset 4. » Et sa main qu'il avait étendue contre lui sécha et ne put ramener à lui. Parce que le roi a mis sa main sur l'autel en disant, « Saisissez cet homme de Dieu-là. » Parce qu'il prêchait l'évangile, le roi a dit, « Non, saisissez-le. » Mais au même moment qu'il a voulu s'attaquer à cet homme de Dieu, sa main est devenue sèche. Ok ? Et lorsque sa main est devenue sèche, on dit le verset 6, qu'il est venu vers l'homme de Dieu et lui a supplié de pouvoir intercéder pour lui afin que cette main redevienne comme auparavant. On nous dit le verset 7, « Viens avec moi, et le verset 6, pardon, nous dit, « Et la main du roi lui fut rendue et fut comme auparavant. » Avant. Donc l'homme de Dieu a intercédé pour le roi qui avait fait une erreur. Et le roi a eu peur pour sa vie. Et par la grâce de Dieu, la main du roi est redevenue normale. Et le roi, parce qu'il a été guéri, va avoir une requête. Le verset 7, pour cet homme de Dieu, il lui dit, « Viens avec moi à la maison et rafraîchis-toi, donc prends à manger et à boire, et je te donnerai aussi un présent, c'est-à-dire un cadeau. » Et l'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais même la moitié de ta maison, je n'irai pas avec toi, je ne mangerai pas de pain, et je ne boirai pas d'eau dans ce lieu, car il m'est ainsi commandé par la parole de l'Éternel, disant, « Tu ne mangeras pas de pain, et tu ne boiras pas d'eau, et tu n'en retourneras point par le chemin par lequel tu es allé. » Et on nous dit que l'homme de Dieu s'en est allé par un autre chemin. Il s'en retourna point par le chemin par lequel il était venu. Pause, on va s'arrêter là, très rapidement, pour résumer ces points-là. L'homme de Dieu va annoncer une prophétie disant que un fils vous naîtra de la maison de David, qui s'appellera Josias. Et le signe qui est donné, c'est que l'autel se fendra et la cendre du dessus se répandra. Quand le roi a entendu ça, au même moment, il a dit « Non, saisissez-le. » Mais ensuite, il a intercédé pour lui. Et au final, sa main s'est guérie par la grâce de Dieu. Et ensuite, pour le remercier, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Au même moment, le roi a dit à cet homme de Dieu « Viens et mange avec moi dans ma maison. » Vous savez que dans la culture hébraïque, par exemple, Lorsque un roi ou quelqu'un vous demande de manger et de boire avec lui, c'est un signe d'hospitalité. Donc ici, le roi est en train de faire une demande d'hospitalité légitime en disant à l'homme de Dieu, « Viens manger chez moi, je t'invite. » Mais ici, qu'est-ce que fait l'homme de Dieu? Il refuse. Il refuse, mes frères et sœurs. Mais la raison pour laquelle il refuse, c'est parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Donc l'homme de Dieu ici a obéi à la parole de Dieu, plus que la coutume hébraïque ici, mes frères et sœurs. Et en refusant, le roi l'a laissé partir par la grâce de Dieu. Mais lorsqu'il est parti, mes frères et sœurs, voici une deuxième personne vient le voir. Et cette deuxième personne-là, mes frères et sœurs, on nous dit que cette personne-là était un vieux prophète. Lisons ensemble à partir du verset 12, à partir du verset 11. « Et un certain vieux prophète habitait Bethel, et ses fils vinrent et lui racontèrent toute l'œuvre que l'homme de Dieu avait faite ce jour-là à Bethel. Les paroles qu'il avait dites au roi, ils les rapportèrent aussi à leur père. Et leur père leur dit, par quel chemin s'en est allé? Et ses fils avaient vu le chemin par lequel s'en était allé l'homme de Dieu qui venait de Juda. Il dit à ses fils, « Scellez-moi un âne. » Et ils lui scellèrent l'âne, et il lui monta dessus. Et il s'en alla auprès de l'homme de Dieu, et le trouvait assis sous un térébinthe. Et il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? » Et il dit, « C'est moi. » Et il lui dit, « Viens avec moi à la maison et mange du pain. » Donc le vieux prophète va demander la même requête que le roi. Et l'homme de Dieu va répondre, « Non. Mais vous savez ce que va répondre le Dieu prophète, mes frères et sœurs? Il va répondre, le verset 18. Moi aussi je suis un prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé par la parole de Dieu, disant, fais-le revenir avec toi à ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et la Bible nous dit qu'en fait il était en train de lui mentir. Et lorsque l'homme, le vieux prophète a dit ça à l'homme de Dieu, vous savez ce que l'homme de Dieu a fait? La deuxième fois, il a accepté. Et on nous dit après, je résume le verset 20 à 23, que l'homme de Dieu a mangé avec le vieux prophète à sa table. Mais lorsque l'homme de Dieu a fini de manger avec le vieux prophète, vous savez ce qui s'est passé? On nous dit, il s'en alla, le verset 24, et un lion le trouva sur le chemin et le tua. Et son cadavre était jeté sur le chemin, et l'âne se tenait à côté de lui. Le lion aussi se tenait à côté du cadavre. Et pour résumer la suite de l'histoire, le vieux prophète a ramassé son cadavre. Maintenant, en lisant cette histoire, mes frères et sœurs, quel est le lien avec nous? Déjà, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, mes frères et sœurs, je vous assure, il faut lire dans les détails. La première chose qu'on voit ici, c'est que l'homme qui a désobéi à Dieu, au départ, et pendant toute l'histoire, on l'appelle un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, mes frères et sœurs, a bien commencé, mais il a mal terminé. Ce qui veut dire que ce n'est pas la manière dont vous commencez qui importe, mais c'est la manière dont vous finissez, mes frères et sœurs. Un peu comme Saül. Saül a bien commencé, mais au final, Saül a mal terminé. Judas, pareil, mes frères et sœurs. Il faisait partie des 12, mais au final, c'est lui qui a trahi Dieu. Et ensuite, il est mort. Donc ici, on voit, mes frères et sœurs, que cet homme de Dieu a bien terminé, mais il a mal commencé. Mais comment il a bien commencé, pardon, mais il a mal terminé. Mais comment il a mal terminé, mes frères et sœurs? On voit ici que l'homme de Dieu a écouté un vieux prophète plutôt que la parole de Dieu. Comme souvent, mes frères et sœurs, lorsque vous arrivez dans votre marche chrétienne, il y aura des personnes plus âgées souvent qui viendront vous voir et vous diront « Non, vous devez faire comme ça. » Mais pourtant, ce qu'ils vous disent n'a aucune assise biblique. Imaginez-vous la scène de l'homme de Dieu qui voit le vieux prophète. Il doit se dire « Mais, ah, ce vieux prophète-là aussi, c'est un adventiste du septième jour. » Il tient une haute position dans l'église. Hein. J'ai l'impression qu'il est dans la vérité présente. Ça veut dire que ce qu'il doit dire là, ça doit être vrai. Bon, je ne vais pas vérifier dans la Bible, je vais l'écouter. Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, nous faisons cette grosse erreur-là. La Bible dit dans 1 Jean 4 qu'il faut éprouver tout esprit, indépendamment de votre position, qui d'ailleurs n'est pas synonyme de sainteté, indépendamment de qui vous parle, sang familial, biologique, tout ce que vous voulez ou pas. Mais si l'homme de Dieu a préféré écouter la coutume plutôt que la parole de Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il s'est fait dévorer, mes frères et sœurs, par un lion. Qu'est-ce que symbolise le lion dans la Bible? Dans Apocalypse 5, on nous parle du lion de Judas. Parlons de Jésus-Christ. Mais vous savez que Satan copie Jésus-Christ. Il y a toujours une contrefaçon. On a le sabbat, le samedi, il y a le dimanche. Il y a le Saint-Esprit, le faux Saint-Esprit. Il y a le lion, mes frères et sœurs, et la contrefaçon du lion. Puisque dans 1 Pierre 5, à partir du verset 8, on nous parle de ce lion rugissant qui est prêt à dévorer quiconque. Nous parlons ici de Satan. Donc en écoutant la parole, en écoutant, pardon, un homme, plutôt que la parole de Dieu, mes frères et sœurs, cet homme-là a fini entre les mains de Satan. A terminé entre les mains de Satan, mes frères et sœurs. Maintenant, il y a plus. Il y a plus. Parce que quel est le rapport de cette histoire avec nous, mes frères et sœurs? Je vous assure, la Bible, c'est un livre vraiment très profond. La Bible nous décrit le vieux prophète le prophète, pardon, qui a parlé à l'homme de Dieu comme étant vieux. Si je vous dis par exemple, dans la Bible on dit que c'était un vieux prophète, ça sous-entend quelque chose. Ça sous-entend que l'homme de Dieu était plus jeune que lui. Donc on pourrait appeler l'homme de Dieu un jeune prophète face à un vieux prophète. Ok ? Et c'est le vieux prophète qui vient vers le jeune prophète et qui lui dit quelque chose qui n'est pas biblique. Et parce qu'il lui dit quelque chose qui n'est pas biblique, le jeune prophète va écouter le vieux prophète et par conséquent va mourir. Donc on peut dire que le vieil homme est venu, le vieux prophète est venu pour persécuter le jeune homme. Vous ne voyez pas quelque chose, mes frères et sœurs? Ici, mes frères et sœurs, cette histoire nous parle du conflit cosmique qu'il y a entre vous, en vous, pardon, et en moi. Le vieil homme ici persécute le jeune homme. Donc le vieil homme ici persécute le nouvel homme. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Un peu comme la dualité, le problème qu'il y a dans l'homme. Parce que lorsque vous acceptez Christ dans votre vie, vous êtes une nouvelle créature. Donc vous êtes des jeunes dans la foi, mes frères et sœurs. Mais la Bible nous dit aussi que le vieil homme va persécuter cette nouvelle créature que Dieu a fait naître. Un peu comme dans cette histoire dans 1 Roi 13, où le vieil homme va persécuter le jeune homme. Et vous savez, qu'est-ce qui a fait que le jeune homme meurt? C'est parce qu'il ne s'est pas référé à la parole. De la même manière, la chair va essayer d'attaquer l'homme spirituel. Mais celui qui va gagner, c'est celui que vous nourrissez le plus. Ça veut dire que si vous ne vous nourrissez pas de la parole, vous allez forcément tomber entre les mains de l'ennemi, mes frères et sœurs. Parce que le vieil homme va venir toujours persécuter la nouvelle créature que Jésus-Christ est en train de faire. Donc la parole, mes frères et sœurs, est beaucoup plus profonde que ce qu'elle en a l'air. Maintenant, lorsqu'on étudie la Bible, mes frères et sœurs, il y a plusieurs dimensions dans la Bible. Il y a aussi la dimension de l'Église. Est-ce qu'ici on peut voir l'Église dans cette histoire? Vous savez, mes frères et sœurs, qu'on peut voir aussi l'Église dans cette histoire. Le jeune homme a été tenté par la nourriture. Un peu comme Adam et Ève, première tentation, la nourriture. Ésaü, mes frères et sœurs. Plat de lentilles, mes frères et sœurs. Nourriture. Lorsque Jésus-Christ était dans le désert, en Matthieu 4 et Luc 4, il a été tenté par la nourriture, premièrement. Premier test, lorsque Israël est sorti d'Israël, dans Exode 16, premier test, le test de la nourriture, mes frères et sœurs. Donc ici, on voit la même tentation qui est proposée, c'est celle de la nourriture. Mais la nourriture, si vous étudiez bien dans la Bible, il y a la nourriture tout simplement, mais il y a aussi que ça symbolise aussi une alliance. Lorsque vous acceptez l'hospitalité de quelqu'un, lorsque vous mangez avec cette personne-là, vous êtes en train aussi de faire alliance avec cette personne-là. Un peu comme aujourd'hui, lorsque vous invitez quelqu'un, vous liez des liens d'amitié. Et ici, on voit que l'homme de Dieu a fait ici alliance avec le faux prophète. On parle ici de l'œcuménisme, mes frères et sœurs. Parce que vous savez que le manger et le boire représentent l'alliance. Lorsque les disciples, Jésus-Christ a dit, voici ma chair et voici mon sang, parlant du pain qu'il a rompu et du jus de raisin non fermenté. Donc je vois ici que cet homme-là a fait alliance avec le faux prophète. Et parce que cet homme-là a fait alliance avec ce faux prophète-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a été pris en fait par le lion et il est mort. Dieu a dit qu'il a désobéi à Dieu. Donc ici, on voit aussi une leçon par rapport à l'Église, mes frères et sœurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, mes frères et sœurs. Vous savez, lorsqu'on étudie la Bible, et nous on met l'emphase sur ça dans ce ministère, la Bible c'est un livre christocentrique. Tout dans la Bible, de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse, ou Révélation de Jésus-Christ, ça parle seulement de Jésus-Christ. Alors où est Jésus-Christ dans ce verset, dans ce chapitre? Ça pourrait même être un jeu, mes frères et sœurs. Où se trouve Jésus-Christ ici, dans cette histoire? Parce qu'on a vu la leçon qui nous concernait. Parlons du vieil homme qui persécute le jeune homme. On a vu aussi la leçon parlant de l'Église, parlant de l'œcuménisme, de faire alliance avec les faux prophètes, qui ont l'apparence, mes frères et sœurs, de brebis, mais qui au final rejettent les commandements de Dieu et mentent. Mais où est Jésus-Christ dans cette histoire? Parce que si nous ne voyons pas Jésus-Christ, mes frères et sœurs, lorsque nous étudions la Bible, nous avons tout raté. Nous avons raté la vie, mes frères et sœurs. Donc où est Jésus-Christ dans cette histoire? Où est Jésus-Christ? Si on vous posait la question, où est Jésus-Christ dans cette histoire? Si quelqu'un a des suggestions, parce qu'on ne peut pas tout voir, parce que la Bible est infinie, on est des êtres finis. Est-ce que quelqu'un voit Jésus-Christ dans cette histoire? Si vous voyez Jésus-Christ dans cette histoire, laissez des commentaires pour qu'on puisse voir ensemble. Est-ce que vous voyez Jésus-Christ dans cette histoire? Dans l'histoire de un roi. Parce que si la Bible témoigne de Jésus-Christ, Jésus-Christ est forcément annoncé ici, quelque part dans cette histoire, dans 1 Roi 13. Et non, je ne peux pas traduire en créole parce que je ne parle pas créole. Donc, où est Jésus-Christ ici? On va aller dans le verset 2. On va lire ensemble le verset 2, mes frères et sœurs. Lisez attentivement, on va lire bien dans les détails. Quelle est la prophétie qu'annonce l'homme de Dieu? Il dit, voici un fils naîtra à la maison de David. Son nom sera Josias. Et on nous dit en plus que le signe qu'il a donné de cette naissance, l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Vous ne voyez pas quelque chose ici? Vous ne voyez pas Jésus-Christ ici? Doro, tu ne vois pas Jésus-Christ ici? Comment est appelé Jésus-Christ dans la Bible? Fils de David. Ici, on nous dit que Josias est fils de la maison de David. On nous dit qu'un fils naîtra de la maison de David, comme Jésus-Christ. Maintenant, si vous regardez Josias, Josias a la même racine que Yeshua. Donc, on parle ici de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Et maintenant, ici, on nous dit que ce fils sera accompagné d'un signe. Le mot signe ici, si vous regardez en hébreu, c'est le mot miracle. Et ensuite, on nous dit que ce signe-là, c'est quoi? C'est un autel qui est fendu. Et en plus de ça, il y aura de la cendre qui sera répandue, mes frères et sœurs. Voyons ensemble. Vous savez que tous ces mots-là ont une signification en hébreu. On va voir ensemble ça petit à petit. Un fils est né de la maison de David. Ça ressemble étrangement à Jésus-Christ, fils de David. Josias est la racine de Yeshua, qui veut dire aussi, parlant de Jésus-Christ. Signe ici veut dire miracle. Autel, qu'est-ce qu'on faisait sur les autels, mes frères et sœurs? Des sacrifices. Fendu ici veut dire faire percer. Le mot en hébreu ici veut dire faire percer. Et la cendre dont il est question ici qui sera répandue, le mot cendre ici veut dire bénédiction. Ou, mes frères et sœurs, veut dire huile. en abondance. Vous ne voyez pas quelque chose? Ici, on nous parle du ministère de Jésus-Christ. Si vous assemblez toutes ces mots-là, ça vous donne une phrase, mes frères et sœurs, prophétique, qui annonce la naissance de Jésus-Christ et qui annonce aussi son ministère. Si vous assemblez les mots, ça vous donne cette phrase-là. Jésus, fils de David, né miraculeusement, puisque la naissance de Jésus-Christ est miraculeuse, qui va être sacrifié, donc l'autel, puis percé. On sait que lorsque Jésus-Christ est mort un vendredi, on a percé sa côte, et de l'eau et du sang sont sortis. Et on nous dit que, donc, en continuant la phrase, de ce sacrifice, une bénédiction en abondance sera sortie, sera déversée. Quelle bénédiction a été déversée après la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Acte 2, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit. C'est pour ça que le mot cendre ici signifie huile. Donc Jésus, fils de David, né miraculeusement, va être sacrifié, puis percé à la côte. Et de ce sacrifice, une bénédiction. Vous savez que de ce sacrifice-là est née aussi une semence, donc une postérité. Et aussi on sait que une huile en abondance a été déversée, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Est-ce que vous voyez maintenant Jésus-Christ dans cette histoire? Parce que le but de cette histoire-là, ce n'est qu'une seule chose, révéler à vous et moi Jésus-Christ. Si nous lisons cette histoire-là en voyant la dimension de l'Église, mais sans voir Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous ratons quelque chose. C'est pour ça que la Bible, mes frères et sœurs, c'est vraiment un livre merveilleux. Vraiment merveilleux. Ici, on nous parle de Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsque le prophète va annoncer cette prophétie, vous savez ce qui va se passer? Le roi va avoir une phrase, un mot qu'il va employer, qui devrait nous faire penser à une histoire. Le verset 4, il va dire quoi? Et il arriva comme le roi entenda la parole de l'homme de Dieu, qu'il cria contre l'autel de Béthel, que Jéroboam étendit sa main dessus l'autel, pardon, disant quoi? Saisissez-le. Ça ne fait pas penser à une histoire, mes frères et sœurs. Pourquoi la Bible dit saisissez-le et pourquoi pas attrapez-le? On va aller dans Matthieu 26, le verset 48. Matthieu 26, le verset 48. Pourquoi la Bible utilise le mot saisissez-le? Pourquoi pas un autre mot, mes frères et sœurs? Pourquoi pas un autre mot? Remarquez bien quelques, mes frères, la Bible c'est fabuleux. Le verset 48. Nous parlons de lorsque Jésus-Christ, les principaux sacrificateurs avec les Romains, donc l'État plus l'Église, sont venus saisir Jésus-Christ, après que Judas, l'un des leurs, les avait vendus. Qu'est-ce que dit Christ? Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, vint, et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui les livrait leur donna un signe, disant, celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Saisissez-le, mes frères et sœurs. Donc Jésus-Christ, au même moment, lorsque l'État et l'Église sont venus, donc les leaders de cette Église sont venus attraper Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a dit? Saisissez-le. De la même manière que dans 1 Roi 13, lorsque la prophétie a été annoncée sur Jésus-Christ, au même moment, le roi a dit « saisissez-le ». On nous parle ici de l'histoire de Jésus-Christ. L'histoire de Jésus-Christ. Et en plus, lorsqu'ils l'ont saisi, si vous lisez la suite de l'histoire à partir du verset 61, ce qu'on reprochait à Jésus-Christ, c'était qu'il a dit « je détruirai ce temple-là et en 3 jours je le rebâtirai ». Donc Jésus-Christ était en train d'annoncer ici sa mort et sa résurrection parce qu'on nous dit qu'il parlait du temple de son corps. De la même manière ici, la prophétie annonçant la mort, la résurrection de Jésus-Christ et le Saint-Esprit en abondance, au même moment, le roi a dit « saisissez-le », comme Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Ici, on voit l'histoire de Jésus-Christ. Et il y a plein de possibilités, mes frères et sœurs. Parce qu'on nous dit aussi que l'autel s'est fendu. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Matthieu 27 que le voile s'est fendu. C'est déchiré, mes frères et sœurs. Donc ici, on parle encore de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. De Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, ça devrait nous pousser véritablement à plus étudier la Bible en profondeur. Parce que chaque détail, chaque mot, point, virgule, témoigne ici seulement d'une seule chose, de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est pour ça que beaucoup de gens, mes frères et sœurs, ont quitté l'Église. Parce qu'on ne leur prêchait plus Jésus-Christ. Pas que dire, ah, Jésus-Christ, la croix, c'est pas ça prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ est de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Donc si vous prêchez que l'Épître de Galates, vous avez un problème. Il y a un problème avec votre évangile. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament que ça parle parfaitement de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont quitté l'Église à cause de la manière dont on leur a présenté l'Évangile. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ dans la Bible. Ils ont vu seulement des événements qui leur faisaient peur, mais ils n'ont pas vu la bonne nouvelle qui était en Jésus-Christ. Ils n'ont pas vu son caractère. Son caractère, mes frères et sœurs. Son caractère. Alors qu'en est-il de nous, mes frères et sœurs? Lisons-nous la Bible seulement, sans voir Jésus-Christ? Écoutons-nous plutôt les autres, plutôt que la parole de Dieu? Écoutons-nous plutôt les traditions, plutôt que la parole de Dieu? C'est les questions que l'on devrait se poser, mes frères et sœurs. C'est pour ça que les réformateurs sont venus avec ce concept. Sola scriptura, et pas sola la tradition, ou sola la culture. Donc mes frères et sœurs, je vous invite vraiment, et je m'invite moi-même, à réétudier par la grâce de Dieu la Bible. Parce que vous allez voir, lorsque les disciples dans Luc 24 ont vu Jésus-Christ dans la Bible, quand Jésus-Christ s'est révélé à partir de l'Ancien Testament, on leur dit que leurs cœurs ont brûlé, mes frères et sœurs. C'est là où le désir, l'amour de Jésus-Christ est né, pour lui et pour lui seul. Alors la question que je me pose et que je vous pose, c'est, est-ce qu'on veut que nos cœurs brûlent d'amour pour lui? Ou est-ce qu'on veut continuer à vivre une vie misérable? Ou en croyant que faire d'autres choses, ça va nous appeler, ça va nous donner le plaisir? Ça, c'est des choses temporelles, mes frères et sœurs. Mais la vraie joie se trouve en Jésus-Christ seul. Alors, est-ce que nous voulons Jésus-Christ, mes frères et sœurs? Je vous invite à prier. Et si vous voulez Jésus-Christ, dites-lui simplement en ce début de sabbat, Seigneur Dieu, je te veux aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Et vous allez voir, il va se révéler à vous, mes frères et sœurs, d'une manière individuelle. N'essayez pas de faire ce que je fais ou d'essayer de faire ce que Williams fait, Samuel, Matt. Chacun reçoit un appel individuel. Tous doivent enseigner, tous doivent prêcher l'évangile. Mais n'essayez pas d'être des copies des autres. Dieu vous a fait individuel. Il y a des gens que vous allez toucher qu'on ne pourra jamais toucher, mes frères et sœurs. Parce que Dieu attend seulement sur vous et sur vous seul pour pouvoir gagner ces personnes à l'évangile. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ, ça veut dire que vous n'avez pas le message. Et si vous n'avez pas le message, d'après Apocalypse 14, à partir du verset 6, c'est parce que vous êtes des habitants de la terre, mes frères et sœurs. Et vous avez besoin de Jésus-Christ. Et vous avez besoin d'être évangélisés. Alors je vous invite, vous tous, ainsi que moi-même, à demander à Christ et lui dire d'une manière honnête, « Oui, Seigneur Dieu, je t'ai raté peut-être cette semaine. Je t'ai raté même pendant 20 ans de ma vie. Mais aujourd'hui, je ne veux plus te rater. Je veux Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à faire cette prière, peu importe là où vous êtes. Je venais quelques minutes. Et ensuite, je vais conclure avec une prière courte par la grâce de Dieu. Notre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Père, pour cette étude, Père. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Car nous savons, Seigneur Dieu, qu'il n'y a qu'en lui et lui seul qu'il y a des mérites. Mais en nous, Père éternel, nous ne sommes qu'un vêtement souillé. Nous avons besoin que tu changes ce vêtement, Père, et que tu mettes le caractère de Jésus-Christ dans notre vie. Je te prie, ô Père, afin que tu puisses nous donner une fraîche et une douce révélation de Jésus-Christ. Que comme il est dit dans Psaume 19, le verset 10, que cette parole soit doux comme le miel. Doux à l'oreille, Père, et doux aussi au goût, Père. Afin que nous puissions être transformés d'image en image et de gloire en gloire. Alors oui, Père, donne-nous Jésus-Christ, nous t'en prions. Et qu'en ce sabbat, Père, nous puissions regarder à toi et à toi seul, pas aux autres, mais seulement à toi, Père. Car c'est en te contemplant, Père, que nous deviendrons comme toi. Et par la foi, Père, et par ta parole, nous avons vu, Père, que tu as eu la victoire sur Satan. C'est pourquoi nous croyons par la foi que, Seigneur Dieu, tu peux faire de nous-mêmes ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes, Père. Nous ne pouvons rien faire sans toi, comme tu le dis dans Jean 15, le verset 5. Nous te prions alors, Seigneur Dieu, d'agir dans nos vies et de te révéler plus à nous, afin que nous ne soyons pas, Seigneur Dieu, des égoïstes à garder Jésus-Christ pour nous, mais que nous puissions le partager à toutes les nations et hâter ton retour. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des messages. On prendra par la grâce de Dieu le temps.